Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux ce soir de pouvoir organiser cette rencontre autour de la rentrée littéraire des éditions de Minuit. Cette rencontre se fait en présence de Thomas Simonet, qui est donc directeur des éditions de Minuit et qui vient de prendre la suite d'Irène Lindon, de Claire Baglin, qui fait paraître donc son premier roman en cette rentrée, et de Yves Ravé, qui... au très bon sens du terme, on va dire, est un auteur historique des éditions de Minuit. Donc effectivement, c'est pour nous très important dans la mesure où les éditions de Minuit sont probablement l'une des maisons d'édition à laquelle les libraires, et la librairie Mola en particulier, étaient singulièrement attachés et dans les livres desquels les libraires se sont formés par leur lecture. Donc Thomas Simonet en profitera aussi justement pour rappeler cette histoire et montrer comment ces deux auteurs s'y inscrivent. Merci beaucoup, très bonne soirée.
Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis très heureux d'être là ce soir avec les auteurs de cette première rentrée de Minuit pour moi. On parlait d'histoire. Je crois qu'on ne peut pas parler de Minuit sans l'histoire. C'est une maison fondée dans la clandestinité, pendant la guerre, par des résistants qui vont réinventer l'édition d'une manière très subtile pour éviter l'occupant, trouver du papier, trouver du plomb, trouver des textes qui résonnent et qui ont un sens fort de résistance. Les éditions de Minuit ne vont cesser d'inventer pendant plus de 70 années qui nous séparent de sa création, d'inventer des livres, d'inventer des styles, d'ouvrir des champs extrêmement importants. Je voudrais les rappeler un peu rapidement avant de demander à Yves et à Claire peut-être quel est le pan de l'histoire des éditions de Minuit par lequel ils sont rentrés, peut-être leur première lecture, à quel moment ils se rattachent. J'ai dit rapidement comme ça, ce début dans la résistance, puis l'arrivée de Jérôme Lindon et simultanément la découverte évidemment de Samuel Beckett qui sera fondatrice pour la maison, un auteur que Jérôme Lindon découvre et révèle, qui n'est égal à aucun autre, qui n'a aujourd'hui pas de suiveur. Les grands documents, ceux qui vont dénoncer ou d'abord témoigner des camps de concentration, Elie Wiesel, Charlotte Delbault plus tard, les documents pour lutter contre la guerre d'Algérie, ça sera un autre chapitre extrêmement important. Et puis chapitre de réinvention dans cette après-guerre de la littérature, celui du nouveau roman. J'aime beaucoup m'attarder sur ce mot de nouveau roman, pour un nouveau roman. Au fond, ce que nous apporte encore aujourd'hui, chacun des auteurs de Minuit, ce sont de nouveaux romans, des romans nouveaux. Et cette importance de la nouveauté dans l'après-guerre, elle est très grande. Il s'agit de réinventer le roman, ce qui est le plus difficile. Évidemment, on pourrait continuer l'histoire, les sciences humaines dans les années 70, très importantes, avec, dans toute cette époque structuraliste, le travail magnifique de Bourdieu, de ses collections, qui va réinventer la sociologie en France. Et puis, à partir des années 80, une forme de retour au roman distancié avec des écrivains comme Jean Echenoz, Jean-Philippe Toussaint, et que va rejoindre bientôt Yves Ravet en 1992, il y a 30 ans, et qui vont proposer des romans qui eux-mêmes s'éloigneront des théories du nouveau roman. Nous voici donc dans les années 2000 avec de nombreux auteurs, Tanguy Viel, Laurent Mauvignier, Julia Deck, qui amènent leur point de vue, leur regard, encore un peu plus de modernité, encore un peu plus de singularité dans ce catalogue, accompagné par toute une critique littéraire extrêmement productive, souvent malicieuse, qui fait la signature de Minuit. On le voit, Minuit, c'est vraiment la maison à la fois de cette histoire, je vous les ai parlé de choses qui sont dans les manuels scolaires, et puis en même temps l'histoire d'une invention et d'une critique très forte. Alors je voudrais passer la parole à Yves ou à Claire d'abord et dire quel est le pan dont ils se sont saisis en premier, ou quel est le premier livre qu'ils ont découvert, qu'ils ont eu entre les mains des éditions de Minuit. Claire, peut-être.
Déjà bonjour et merci à tous d'être présents à cette rencontre. Les éditions Minuit, moi je me souviens, j'ai un souvenir assez fort en tout cas de ma première découverte, donc d'un Beckett forcément, avec En attendant Godot. Donc c'était une lecture pour le coup assez scolaire, mais je me souviens d'abord en tout cas d'un sentiment assez composite où je m'étais dit en fait d'abord j'ai pensé que les éditions Minuit n'étaient qu'une maison d'édition de théâtre. J'étais persuadée qu'en fait Minuit n'éditait que du théâtre, et en fait ça a été des découvertes toujours au fur et à mesure. Je me rappelle aussi ma découverte d'Eugène Savitskaya avec un grand nombre de textes qui sont proprement poétiques, en tout cas moi qui m'avait extrêmement touchée sur un rapport sensible en fait au paysage, notamment au paysage et aussi à l'espace en fait d'une certaine façon. Et en fait tout ça, enfin ces deux auteurs-là ont été assez importants de façon assez différente chacun. Et bien sûr un peu plus tard Robert Linhart avec L'Établi, qui m'ont finalement en fait peut-être même mené à ce roman qui est paru donc le 1er septembre. Et c'est vrai que L'Établi, je me souviens d'encore une fois une nouvelle découverte après la première sur le théâtre et vers le roman et aussi vers une forme de poésie. Et c'est vrai que ce texte-là de Linhart, ça avait été quelque chose qui m'avait vraiment touchée dans ce rapport vraiment frontal en fait avec la répétition, avec aussi la machine en fait. Je ne sais pas si c'est un texte qu'on a peut-être en commun. Ou...
Claire, L'Établi, hein, c'est donc je vous avais tracé un peu les lignes de l'éditorial de Minuit. Il pourrait s'apparenter à ce texte écrit après 68, un document, hein, comme on en publie beaucoup chez Minuit. Il s'agit donc pour Robert Linhart de s'établir à l'usine comme on le faisait après 68 et vivre et participer à la condition ouvrière, l'écrire, et à travers l'écriture, à travers un travail qui a été reconnu aujourd'hui vraiment de littérature, de traduire cette condition, peut-être de la critiquer ou du moins l'amener à un endroit visible, lisible. Alors ça, c'est un mouvement sur lequel on reparle, dont on reparlera peut-être, que vous partagez, un souci, une des manières d'envisager la littérature. Yves, pour vous, l'entrée dans le catalogue de Minuit, c'est quoi la porte ?
Bonjour, voilà. Ben c'est même ça démarre en définitive avec les années de lycée, quand je découvre que quelqu'un comme Pierre Bourdieu par exemple peut écrire des textes d'une épaisseur incroyable, et je m'interroge ça me met tout de suite en relation avec une sorte de certitude. C'est-à-dire que pour publier des choses comme ça, de cet ordre-là, je crois que ça doit être une maison dont je dirais qu'il y a un contenu littéraire, mais à ce moment-là, je ne le connais pas encore, mais surtout qu'il y a un contenu moral, c'est-à-dire quelque chose qui s'inscrit dans la société, qui lui donne du sens du point de vue intellectuel et du point de vue des recherches. Et ce qui m'a impressionné, vous avez cité la résistance dont Minuit est issu, et je crois que déjà là c'est une sorte de prise au sérieux, quoi. On a le sentiment que on se soucie ici des mouvements de l'histoire, des soubresauts et de ce qu'implique une action qui est à ce moment-là une action liée à l'occupation. Et ma seconde véritable rencontre, elle est avec le livre d'Henri Alleg. Et c'est vrai que la question est un monument. Alors c'est toujours pareil, on est sur des données historiques, mais avec une des prises de position qui sont pas des prises de position frontales. C'est-à-dire qu'il y a toujours à l'intérieur des textes publiés par Minuit une profonde réflexion et une, une complication extrêmement bienvenue, quoi, une complexité des problèmes abordés. Et je crois que c'est ça qui a dû... Alors, pour tout dire, après, pour moi, ça devient une sorte de plaisir et je me sens un peu annexé. C'est ça, le truc. C'est que quand vous aimez des livres de ce genre, ceux que je vais citer, vous n'êtes plus vous-même. C'est-à-dire que vous êtes guidé par des choix que... Chaque fois que vous voyez un livre que vous aimeriez lire... Et ce livre va vous être aussitôt interdit parce que vous allez virer sur un livre des éditions de Minuit. Je dis ça sans... Et un souvenir, c'est dans la salle d'attente. Pourquoi pas aussi, nous sommes à une période où moi, la psychanalyse me touche. Et je me suis souvenu, après des années, quand on s'est posé la question de savoir d'où on venait, quoi, parce qu'on est après un certain nombre de livres... On se pose des questions sur son identité littéraire, quoi, en définitive. Et la question, c'est que quand j'étais dans la première fois que j'ai lu un livre de Rob Grillet, c'était le Voyeur, j'étais dans l'antichambre du psychanalyste. Et pour dire que on n'est pas obligé, c'est ce que je voudrais exprimer ce soir, on n'est pas obligé de tout comprendre à un livre pour l'aimer et puis pour l'aborder. Et c'est vraiment très intéressant de savoir qu'il est le produit d'abord de l'écriture de quelqu'un qui s'appelle Rob Grillet, par exemple, mais qu'il est aussi le produit d'une direction à prendre. Voilà. Et je rejoindrai facilement ce que dit Claire quand je l'entends parler d'En attendant Godot, par exemple. Mais et il est vrai à cet endroit que faire la découverte de Molloy de Beckett, c'est quelque chose dont on ne revient pas. Voilà. Je ne veux pas être trop long, hein, non plus.
Merci beaucoup. Une exigence, un sens, une confrontation à des œuvres très fortes qui vous marquent, qui vous font réfléchir. Peut-être l'école qui aujourd'hui a prescrit, qui a participé à ça. Je pense que ça doit vous toucher... un peu tous, c'est notre rencontre avec les livres de Minuit. Je crois que les deux livres, on reviendra certainement sur ces mots-là, le réel aussi, peut-être. Ils ont cité chacun, Henri Allègre, la question, ce témoignage très très fort sur la torture en Algérie. Certainement qu'on reviendra un petit peu directement ou indirectement en parlant, et on va y venir, des œuvres de chacun. Toutes ces questions-là, elles sont là, ces rendez-vous, je crois que Claire Baglin et Yves Ravet les donnent au lecteur, ce rendez-vous avec l'exigence, avec un sens. La littérature peut contenir ça, et les éditions de Minuit s'y sont employées, je crois, beaucoup. Alors, je vais donc revenir aux livres qui viennent de sortir depuis un mois et demi de nos deux auteurs. Je vais peut-être commencer par Yves. Yves, vous publiez depuis 30 ans aux éditions de Minuit. Le premier livre est sorti en 1992, Taormine, aujourd'hui. C'est une œuvre essentiellement romanesque. Taormine partage beaucoup de choses avec vos livres précédents, souvent une tension très forte, quelque chose qui est un crime qu'il faudra résoudre ou un meurtre qui va se produire, beaucoup de choses partagées avec les codes du roman noir, jusque dans les noms des personnages. Alors voilà, et en général, plutôt une situation en France. Cette fois-ci, Yves a décidé, avec ce livre, de nous déporter, prendre un avion, même si c'est plus tellement permis, jusqu'à atterrir à Catane, en Sicile. La Sicile, vous voyez à peu près la forme. Il y a un tour que fait à peu près tout le monde. Ce tour, pour le faire, les deux personnages, un homme et une femme, un couple un peu en crise, même complètement en crise, qui a décidé de se retrouver grâce à ce joli voyage. Ce tour, ils veulent le faire en voiture. Ils ont donc loué à l'aéroport une voiture et ils sont bien décidés à réussir ces vacances. Mais évidemment, Ça ne va pas se passer comme prévu, ça ne va pas se passer pour notre narrateur principal, ça va même se passer très très mal. Et est-ce que ce livre qui nous amène à l'intérieur, qui pourrait être une histoire de couple, hein, qui pourrait être une histoire, la fin d'une histoire d'amour, un dernier amour, est-ce que c'est un livre, c'est peut-être une question qu'on ne vous a pas posée, sur le déni, sur l'aveuglement. Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez transporté le roman noir dans ce motif qui serait celui de l'aveuglement ou du déni?
Oui, quand vous dites un premier amour, je pense aussi à un texte de Beckett, mais je ne vais pas m'installer à l'ombre de Beckett comme ça si facilement. Ce n'est pas la question. C'est le propos, il est au départ, puisque on parlerait définitivement de Taormine, par exemple. En définitive, lorsque j'ai commencé à écrire ce roman, j'avais en tête un lieu, et ce lieu n'était pas de moindre importance. Enfin, c'est le pays entier, enfin le pays de la Sicile, avec ses caractéristiques. Et puis, je me suis rendu compte progressivement, en démarrant le travail et en cherchant une première direction, c'est-à-dire que je n'ai pas au départ de plan définitif. Je pars en action d'écriture comme ça, sur des choses. Et qu'est-ce que m'apparaît une chose importante, c'est que j'ai logé deux personnages qui m'intéressent beaucoup et je les lis entre eux dans la mesure où ils sont mariés et femmes. Et là, j'entreprends de mettre en place une histoire liée à la vie de couple, avec tout ce que cela peut comporter. Et j'aurais tort maintenant de parler du roman dans les termes qui seraient son évolution étape par étape. Toujours est-il qu'il y a une particularité dans ce couple, c'est que lorsqu'il débarque en Sicile, le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire à la lectrice et au lecteur, voilà, dit que s'ils ont atterri en Sicile, c'est parce qu'ils ont l'intention de faire un beau voyage, et s'ils veulent faire un bon voyage et l'ont organisé en conséquence, c'est parce que leur dernière existence de couple a été mise à mal, et c'est un couple qui a besoin de se reconstruire. Et puis, persuadé de mon fait, je me dis, je me laisse aller tranquillement, et je dois dire que j'ai eu simplement au départ l'intention de raconter une histoire, enfin d'écrire sur le fait que Louisa, puisqu'elle s'appelle Louisa, décide, décide de se rendre sur la plage, et son mari Melville doit donc la transporter jusque-là, et pour prendre un bain de mer. Et je me dis, tu vas grossir cet événement, tu vas le continuer si possible, enfin le plus longtemps possible. Parce que très souvent, comme vous l'avez dit justement, certains codes aussi du roman noir font que on peut être la victime d'un accident. Voilà. Et cet accident va nous propulser dans une autre direction. Mais je suis en train de me dire, avant qu'il y ait quelque chose de problématique que tu ne t'empêcheras jamais d'écrire, avant que cela se produise, tente au moins pour une fois de baigner avec, c'est le cas de le dire là, avec la lectrice ou avec le lecteur, de baigner dans quelque chose que tu raconterais simplement, un texte qui se tiendrait par lui-même. On n'a pas besoin d'histoire automatiquement, et c'est aussi cette histoire que le sujet peut être absent. Et finalement,
l'histoire, c'est de passer absolument des bonnes vacances, ça jusqu'au bout.
La justification, elle est là, c'est que Melville ne lâchera pas sur ce plan-là. Mais
quoi qu'il arrive.
Voilà, quoi qu'il arrive, voilà. Et donc, ils vivent un accident sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui est notoire et qui va faire changer de direction cette description que j'avais commencé, c'est-à-dire leur faire vivre un instant de bonheur. Et je me disais, essayer de percer ce que peut être la conversation à l'intérieur d'un couple à propos des vacances, quand on a décidé de se... et quand les choses se sont mal passées antérieurement. Mais les éléments que je loge font que ça a l'air quelque chose d'assez lourd. Et en définitive, j'ai le sentiment que, bien vite, c'est de cette histoire de couple que je vais parler, voilà. De cette histoire de couple et moins d'une affaire qui serait simplement de vacances, voilà.
Donc deux voies, deux chemins qui se tracent très très vite, hein, en première page, et qui nous permettent de lire le livre, de lire presque deux livres en un. Je voudrais parler maintenant du livre de Claire, En salle. Alors, Claire, donc ça ne fait pas 30 ans qu'elle publie aux éditions de Minuit, mais simplement un mois et demi, ou presque deux mois. Le sujet d'En salle, enfin, c'est un livre qui a une construction aussi, là aussi, avec deux routes, une construction en alternance entre deux récits. Alors le premier par lequel on commence, c'est un entretien d'embauche dans un fast-food. La narratrice vient demander une place pour quelques mois, pour travailler, pour gagner un petit peu d'argent. Et elle va décrire ainsi ces quelques mois de travail parmi les équipiers, sous l'autorité des managers, sous l'autorité d'un ordre extrêmement organisé pour que le restaurant tourne et soit le plus profitable possible. Ça, c'est la vie de la narratrice à 20 ans. L'autre voie qui se mêle dans ce récit, c'est un autre récit. Il se passe 10 ans avant. La narratrice a 10 ans. Elle est dans un espace tout aussi, au fond, bizarrement, on y pense rarement, tout aussi clos que celui d'un restaurant, et qui est l'espace familial. Elle vit entre son père, sa mère et son petit frère à la maison, dans une maison envahie de bazar, de bordel, dit-elle. Et cet espace est marqué par... Les allées et venues à des horaires un peu particuliers de son père, qui est ouvrier technicien dans une usine et qui est astreint par ce travail qui pèse énormément sur lui. Entre ces deux récits, pas de lien particulier dans le livre, une ellipse qui est maintenue, et une construction qui va alterner ces deux récits tout au long du livre. On passe de ces 10 ans à ces 20 ans sans savoir vraiment pourquoi. On le devine à ce que j'ai dit. Est-ce que, pour vous, l'origine de ce livre, est-ce que ce qui le résumerait, Claire, votre projet original ou votre but, c'était de parler, c'était de construire un roman sur le travail? On rejoint encore des questions qu'on avait vues, hein, aux limites du documentaire. Est-ce que c'est ça le point de départ, ou est-ce que le point de départ était encore... ailleurs.
J'ai l'impression, d'ailleurs, c'est quelque chose, je pense, qui pourrait nous rassembler d'une certaine façon sur qu'en fait le point de départ, finalement, c'était presque en fait le trajet et même le moyen du trajet, c'est-à-dire en fait la voiture. Moi, je sais que c'est une figure comme ça qui m'obsédait un petit peu. En tout cas, j'avais l'impression que la plupart des premiers essais d'écriture, en tout cas autour de ce roman que je voulais au départ, voilà, vraiment autour de l'usine, c'était celui du trajet en voiture, de cet espace qui me semble assez intéressant, parce que justement il y a ce côté où voilà, ce huis clos dans lequel, voilà, je crois que dans le roman il doit y avoir aussi cette partie où justement on ne peut pas sortir de ce huis clos, on va devoir subir comme ça parfois une, deux heures, trois heures de vacances familiales, et en fait ça m'intéressait justement dans ce que ça pouvait déployer. Et d'ailleurs, même dans, je trouve, dans l'organisation même de la voiture, il y a quelque chose qui est proprement familial, avec ce côté avec les adultes devant, les enfants derrière, ce côté un peu de la famille de quatre. Je sais que c'est vraiment peut-être la première image sur laquelle je pourrais revenir, mais c'est la première peut-être image sur laquelle j'avais envie de m'attarder dans le texte, de faire un récit de trajet en voiture dans quelque chose de l'ordre du souvenir et qui tourne autour de cette usine, puisqu'en fait la voiture dans le roman, donc dans salle, c'est un endroit à part entière, mais c'est aussi voilà, se tourner autour des lieux de lieux importants, et notamment celui de l'usine du père, donc, dont on apprend au fur et à mesure qu'il est dans la maintenance automobile. Et donc d'abord donc, ce trajet, ensuite ses souvenirs, et ces souvenirs d'ailleurs un peu difficiles du moins à dresser ou difficiles à approcher en fait. Il y a eu dans ma lecture en tout cas de l'établi de Robert Linhart dont je parlais tout à l'heure, il y a eu un moment où c'était en fait pas mal de lectures d'emblée, même une sorte de bibliographie constituée avant écriture. Je m'étais dit voilà, je veux lire qu'est-ce qui s'écrit sur le travail en fait véritablement. Et là, il y a eu effectivement Robert Linhart, mais je pense aussi par exemple à Alexis Lusine de Leslie Kaplan. Il y a eu également voilà Louis Calaferté, même si c'était d'autres entreprises encore avec Le Requiem des Innocents, et puis Henri Calais avec La Belle Lurette. Peut-être ce serait ces quatre auteurs-là en tout cas à un moment qui m'ont retenu et qui ont peut-être commencé justement ce moment où je vais faire ce roman et j'avais besoin de ces quatre auteurs-là pour aller vers ce roman. Et en fait, donc, en même temps, une sorte de constat à un moment de difficulté à dresser cette figure et cette usine que je ne connaissais pas tant que ça d'ailleurs, puisqu'il y a un moment où je me suis rendu compte que le souvenir que j'avais de cette usine, c'était voilà, une sorte de virée enfin, extrêmement occasionnelle où j'avais perdu une moufle, enfant en fait. Donc c'était vraiment un souvenir qui était vraiment très, très infime et qui ne me permettait pas en tout cas d'approcher l'usine, malgré même en fait, l'entreprise d'enregistrement dans laquelle je m'étais mise. Puisque j'avais demandé donc à mon père de parler de cette usine, de parler de ce qu'on y fait, de ce quotidien-là, de ses habitudes, de même du geste en fait, juste simplement voilà quel geste on fait du début à la fin d'une journée de travail. Et ça donc la difficulté que j'avais à l'approcher, ça a été il y a eu ce moment en fait d'expérience au fast-food que j'ai connu qui m'a permis de l'approcher, du moins d'avoir une approche de travail qui n'était pas celle de mon père, loin de là, mais qui m'a permis au moins de peut-être avoir ce fil narratif comme pierre de touche de l'usine. C'était le fast-food qui me permettait d'aller vers l'usine et d'aller aussi vers le souvenir d'enfance. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en fait, dans ces deux fils narratifs, on pourrait avoir d'un côté donc, effectivement une employée dans un fast-food qui travaille, et de l'autre, dans le souvenir, on serait sur quelque chose qui est autour vraiment proprement du travail. C'est-à-dire qu'on a les vacances de la famille, on a le quotidien de la famille dans ce qu'il a à la maison, avec aussi ses sorties, ses week-ends. En fait, ça pourrait presque être ça. En fait. On a d'un côté un univers clos du travail et de l'autre côté un univers clos, ce que vous disiez d'ailleurs sur l'univers clos de la famille, mais qui tourne autour du travail, qui l'approche par le discours, qui le met à distance aussi d'ailleurs par le discours, et c'est vraiment ça aussi. Qu'est-ce qu'on produit autour du travail? Qu'est-ce que dépose en fait ce discours sur le travail par les parents chez les enfants? Et ce que ça provoque également aussi dans la perception de l'équipière au fast-food? D'avoir ces souvenirs-là, justement, d'avoir ces marques-là, cette façon de parler du travail, de parler de... Enfin, c'était vraiment, je pense, ça aussi qui m'intéressait. Mais sur le trajet, justement, je trouve que c'est drôle qu'on se retrouve un peu autour de ça. Mais c'est vraiment oui, ce chemin-là, en fait, tourner autour de certains lieux également. Et puis, encore une fois, cette voiture qui, moi, ne cesse de m'interroger, en tout cas, dans ce que ça produit aussi, comme type d'échange, d'ailleurs, comme type de discours. Qu'est-ce qu'on se dit dans une voiture qu'on ne se dirait peut-être pas, d'ailleurs, ailleurs, à la maison ou, enfin, c'est aussi ça. C'est, qu'est-ce qu'on évite de se dire aussi, peut-être?
J'ai eu cette remarque qui m'a été adressée par rapport à effectivement l'utilisation du vecteur voiture dans quoi il se passe énormément de choses. C'est le lieu de tous les bonheurs, de tous les plaisirs, mais c'est aussi le lieu de tous les dangers, quoi. Et par définition, une personne me faisait remarquer, mais après tout, ça rejoint, il me semble-t-il, ce que vous étiez en train de dire. Les personnes qui sont dans une voiture, quand elles sont à partir du moment où les décrits conversant à l'intérieur de la voiture, il y a une à gauche, une à droite, mais en définitive, elles regardent les deux droit devant elles. Le conducteur, c'est la moindre des choses, et puis l'autre, voilà. Mais par contre, quand on se parle, et bien on ne se regarde jamais. Et que la voiture, c'est peut-être le lieu familial comme ça, mais c'est aussi le lieu empêché de la conversation et le lieu empêché, voilà, de l'échange, quoi. En définitive, tout doit filer comme ça, comme une ligne droite. Et moi, je l'entends comme vecteur. Quoi,
ça ressemblerait un peu à la narration. On serait en train de regarder le livre, tous les deux, et pas tout à fait dans une situation de dialogue normal. Pas tout à fait de vie. Il y a quelque chose qui serait différent dans la voiture. Ça serait un lieu de parole différent.
Ben, ça peut être un lieu de la modernité en tant qu'objet mythologique, quoi. On pense effectivement à ce qui a pu être dit là-dessus, mais surtout, si je pouvais rejoindre ça, ce que dit Claire, j'en viendrais à dire que c'est à partir d'une voiture, strictement d'une voiture, que la tragédie, que le drame de Taormine va naître, quoi. Et c'est vrai que le vecteur est là, voilà.
Avec quelque chose d'un peu commun comme ça, à la fois cet espace familier en fait de la voiture, qui parfois même d'ailleurs dans le roman en salle, il y a ce côté-là où en fait la maison donc qui est effectivement encombrée par le désordre se retrouve aussi dans la voiture comme une sorte de petite maison en fait comme ça qui serait l'extension ou peut-être le bras comme ça de la maison et dans cet espace familier effectivement il y a ce côté familier et en même temps il y a l'extérieur et il y a le danger et il y a tout ce que ça peut constituer quand ce familier se heurte. En fait, une sorte de chose comme ça qui mêle les deux.
Alors, le heurt, c'est très intéressant parce que, au début des deux livres, si alors évidemment, dans le livre d'Yves, on le voit très très bien. Hein, au début, ce heurt, ce choc, il y a un objet, un son, un bruit qui va heurter la voiture dès le départ de l'aéroport et qui va constituer une question qu'est-ce qui va habiter tout le livre, qu'est-ce qui a heurté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Faut-il aller voir? Sont-ils coupables? Une notion de faute et évidemment une métaphore de heurter entre ce discours amoureux entre les deux, enfin difficile hein, de ce couple, ce discours, cette parole et puis ce réel du choc de ce qui a pu se passer. Eh bien, il y en a un autre qui est très intéressant au tout début du livre de Claire. Les enfants ont supplié les parents de s'arrêter sur la route des vacances. On est toujours aussi dans une route des vacances, sur une aire d'autoroute pour la première fois, aller dans un fast-food. Alors, c'est dans l'enfance. Les deux enfants, ils obtiennent, après de longues discussions, l'autorisation commune d'aller dans ce fast-food. Et Nicolas, le petit frère de la narratrice, qui est plus rapide, sort de la voiture, se dépêche, le temps que je vous les raconte beaucoup moins bien que dans le livre, surtout pour que les parents ne changent pas d'avis, et court vers les lumières du fast-food. Il court. Et quand il arrive enfin, là où il y a la queue, il y a le monde, où il y a l'odeur, les frites, il se prend la porte vitrée.
C'est vrai que ça pourrait être constitué de deux heures comme
deux
ça.
Deux heures avec le réel qui sont tout à fait constitutifs de cette difficulté ou de ces voix qui vont travailler le livre, voix qui vont nous amener à des thématiques, à des sujets très forts. Louisa va rencontrer avec son mari sur le chemin des migrants, des gens qui sont là, en marge de cette société sicilienne idéale, faite de temples, de bonne nourriture, de beaux hôtels. Et évidemment, le réel, c'est celui du McDo, c'est celui de ses codes, très, 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 très fermé. Claire, ce heurt-là, il était... Ce choc, ça serait votre manière d'être entre littérature et documents, si votre livre avait quelque chose à voir avec les deux.
Je me pose cette question, et effectivement, l'alternance au début, c'était cette alternance justement entre fast-food, entre récit de travail et souvenirs d'enfance, on pourrait considérer qu'ils forment en fait la part, peut-être, je sais pas, je n'irai pas jusqu'à dire lyrique, mais peut-être en tout cas, voilà, nostalgique, quelque chose en tout cas de peut-être plus doux que cet univers du travail. Alors même que pourtant, je trouve que les deux sont quand même un peu baignés, en fait, justement, de ce travail-là. Mais en tout cas, sur la notion de document, c'était peut-être, en tout cas, ce que constituait le fast-food à un moment, c'était essayer de cerner les contours de ce que peut-être le travail, d'abord là-bas, mais aussi peut-être avec des choses qui sont communes avec avec beaucoup de métiers en fait ou d'emplois, c'est-à-dire en fait de toute façon il y aura cet entretien d'embauche, ensuite il y aura ce premier jour comme on peut en vivre, et ensuite donc cette formation, et ensuite encore un apprentissage de gestes, une répétition, et jusqu'à peut-être la saturation de ces mêmes gestes. Et c'est vrai que ça m'intéressait en tout cas au début peut-être de créer peut-être un document sur le travail là-bas, et ensuite encore de peut-être le déplacer, ou du moins de revenir sur ce travail, mais de le placer à un endroit différent. Je sais que, par exemple, et ça s'est vu d'ailleurs dans mes lectures, c'est que peut-être que je suis partie de Robert Linhart avec l'établi, et qu'ensuite je suis arrivée à Thierry Metz avec le journal d'un manœuvre, et je crois que là, il y a vraiment peut-être un véritable passage au moment où je me suis dit, en fait, je ne vais pas, par exemple, faire un récit de dénonciation de travail, un récit, voilà, exposition. Il y a eu un moment où il y a eu un tournant dans l'écriture de ce roman-là, et où je me suis dit, en fait, qu'il y avait quelque chose déjà à faire avec ce qu'il y a de l'enfance dans le travail. C'est-à-dire que, par exemple, je pensais, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord cet ennui qui se trouve en salle proprement, les employés qui sont en salle et qui s'ennuient et qui n'ont pas de prise d'ailleurs sur ce temps. En fait, le temps avance et comme un enfant pourrait se le demander, mais quand est-ce qu'on part en fait ? Quand est-ce qu'on part ? Quand est-ce que c'est fini ? Ce côté-là aussi où les choses paraissent absurdes et arriver comme ça, toujours nous arriver en se disant, voilà, mais quand est-ce que tout ça va se terminer ? Et puis, par ailleurs aussi, les gestes même du travail qui pourraient faire lien avec l'enfance, ce serait, voilà, ces habitudes de langage que les enfants reproduisent, et avec ceci, et voilà pour vous, avec cette caisse de la marchande là, qui, enfin, c'était ça en fait qui m'intéressait aussi, c'était trouver peut-être les résonances entre l'enfance et entre encore autre chose en fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu un déplacement. Alors je sais pas si c'est quelque chose que peut-être on connaît en écriture, mais je pense à Roland Barthes dans ses cours sur la préparation du roman, qui parle vraiment de peut-être d'une idée de départ qui est ensuite dépassée, ou du moins qui ne tient que le début, et ensuite c'est au moment où on s'en débarrasse et on arrive dans autre chose, ou du moins, enfin, moi en tout cas j'ai eu cette sensation là en fait d'arriver dans l'inconnu, et dans cet inconnu quelque chose s'est produit.
Oui, Yves, le choc, oui, du départ, il est, c'est un moteur.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui,
beaucoup, c'est de choses.
Là, ça me permet de, enfin, ce qui nous est commun, moi je crois, c'est effectivement le choc avec le réel, et c'est intéressant de, c'est-à-dire le quotidien, quoi. Et c'est intéressant de se poser la question de comment on finit, comment on écrit, mais comment on se met à choisir un sujet, comment on approfondit quelque chose qui va devenir une histoire alors qu'on n'en est pas certain au début, et savoir comment on se prédispose à l'écriture. Et là, je me permettrais, enfin, en parlant de Taormine, quoi, en disant que au départ, comme je l'ai dit, c'est une promenade sur la plage. Et là, si tu peux, je me dis, si tu peux tenir 40 pages là-dessus, alors ça sera bien. Mais pourquoi tu n'écrirais pas simplement des choses naturelles ? Et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que il y a l'événement, quoi, qui vient contredire la situation. Et j'ai l'objet, enfin, comme on l'a déjà dit, couple en crise. Mais comment dire, on essaie de toucher à rien et de continuer à écrire. Et progressivement, d'un seul coup, on met le doigt. Et là, c'est un doigt dans l'engrenage. C'est-à-dire que on reprend sa voiture. On a fini avec cette plage où on pense ne pas l'avoir véritablement réussi, mais on se dit, c'est dommage parce qu'il faudrait retarder tout le plus longtemps possible, quoi, ce type de récit. Voilà. Et le doigt dans l'engrenage, c'est qu'il y a un accident. Et l'accident, il concerne... voilà. Il y a ce qui a été dit tout à l'heure, le fait que nous sommes... Le personnage du narrateur décide, malgré cet événement grave, de continuer sa route et de ne pas s'arrêter. Donc, il est susceptible d'avoir écrasé qui, on ne sait pas, comment, on ne sait pas non plus, mais lui, en attendant, il est habité par cette histoire de couple à remettre en place, et puis par cette histoire de vacances qu'il ne veut pas lâcher. Il faut voir que, et c'est là que je me suis senti à l'aise, paradoxalement, mais par des, je ne sais quel lien magique peuvent être tissés entre des romans. C'est-à-dire que je me sentais très à l'aise en vous lisant, par exemple, et alors que j'étais en train de me dire que mon personnage, lui, il y a une chose qui compte avant toute chose, c'est faire des bonnes vacances. Et puis ces bonnes vacances, ça doit lui servir à refaire son couple. Alors cette histoire qu'il y a quelque chose dans sa roue là qui vient de poser problème, enfin, ça ne le concerne pas, quoi, en définitive. Donc il est dans le déni. Mais il est aussi, je suis moi là dans la situation de décrire quelque chose qui peut arriver à tout le monde, qui nous concerne. Et il faudra que, après plusieurs, le fait d'arriver à l'hôtel, le fait d'avoir un débat, enfin d'avoir une rencontre narrative avec son épouse, etc., fait que il faudra un autre événement pour que cette fois soit mise à plat sur la table la culpabilité du personnage, du narrateur. Et c'est cette culpabilité qui va que je n'avais pas du tout, absolument pas prévu, parce que j'avais pas du tout prévu qu'il y aurait un accident. D'ailleurs, c'est un peu ça la définition du mot accident, mais c'est la voie qui a été choisie. Et à partir de là, je dois tenir le récit en relation avec, je me dis à un moment donné, avec la notion de morale, avec la notion de justice, avec la notion de responsabilité, enfin, avec toutes ces choses-là, je me dis, t'écris un roman différent des autres, quoi. Alors qu'en définitive, je ne fais, si je m'y réfère en fin de récit, je ne fais que raconter une histoire tout à fait banale, simplement qui existe du fait qu'elle a été déclenchée par un événement malheureux que d'autres pourraient dire criminel. Mais là, je rentre dans un discours personnel sur le livre et peut-être
alors, on a des choses à dire de cet axe complètement, parce que là, on est dans le grave, le crime, le sens, le réel, le travail. Là, ouais. Mais une autre tradition des éditions de Minuit, un autre aspect de ses œuvres, quelque chose qui traverse beaucoup depuis Samuel Beckett, c'est l'humour. Et je crois que les deux personnages principaux de ces deux livres s'inscrivent tout à fait dans cette tradition. Alors, ils sont pourtant très caractérisés, plutôt discrets en salle. Le narrateur est caractérisé par son effacement. On sait à peine son prénom qui est prononcé une fois. On ne sait pas vraiment ce qu'elle pense. On sait un peu ce qu'est son enfance. Le personnage d'Yves Ravet, évidemment, lui est caractérisé par sa lâcheté absolument, son cynisme d'un jusqu'au boutisme extraordinaire. C'est-à-dire que jusqu'à la dernière page, cette caractéristique ne bougera pas d'un iota. Oui. Alors évidemment, quand on tire comme ça, à ce point-là, dans un sens ou dans un autre, ces personnages, qu'on a cette radicalité, c'est là qu'un certain humour se loge, qu'il y a une certaine distanciation, qu'un certain second degré apparaît. Est-ce que, je pense à des scènes de chacun de vos livres, il y a une scène véritablement de comédie dans l'hôtel où les deux personnages se cachent quand la police rend visite à leurs bagages et qui se cachent derrière le rideau puis sur le balcon. Évidemment, on a aussi d'autres scènes tout à fait savoureuses, qui soient des dialogues totalement absurdes entre un client et l'hôtesse d'accueil à qui il réclame de l'ananas tranchée qui n'est pas à la carte du fast-food.
Ce qui est un scandale.
Ce qui est un scandale, ou autre scène de famille très très savoureuse. Est-ce que cet humour, il est conscient? Est-ce qu'il reflète votre regard sur le monde? Qu'est-ce que vous pourriez dire?
J'ai l'impression que c'est essentiellement, et d'ailleurs c'est drôle comme en fait ça peut se retrouver autant dans Tarmine que dans Ansel, c'est l'absurdité aussi de la situation qui mène en fait oui. Peut-être au comique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où en fait notamment dans Ansel, il y a ce côté-là justement où on est dans un fast-food, on vient d'y arriver, on accepte ces codes de vocabulaire, et d'ailleurs l'entretien d'embauche amène forcément à l'humour, puisqu'en fait, la situation est proprement absurde et on ne pourrait pas s'en sortir peut-être sans ça, en fait. Il y a peut-être un moment où, en fait, l'ironie s'installe forcément vis-à-vis de cette figure de directeur qui vient demander quatre fois à la narratrice si elle va bien se lever le matin. Il y a peut-être forcément quelque chose qui arrive là, c'est-à-dire que sans peut-être c'est cette absurdité, vraiment, il me semble, qui est une passerelle vers ça. C'est-à-dire que les personnages, se regardent, du moins, se jaugent. Et là-dedans, en fait... Et d'ailleurs, je pense, par exemple, au personnage de responsable du roman qui est central, qui s'appelle Chouchou, qui est, en fait, une manageuse proprement de la salle, et qui, en fait, sous couvert d'être dans son personnage de responsable proprement, rate pourtant toujours et reste dans une forme comme ça de sorte de bienveillance de vis-à-vis des personnes avec qui elle travaille. Et en fait, c'est peut-être même dans ce ratage-là, ou du moins dans cette difficulté-là à assumer un poste de responsabilité, que peut-être l'humour s'installe. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à occuper une place qui est pourtant toute faite pour nous. Je pense que j'aurais pu écrire peut-être un personnage de responsable extrêmement strict dans son rôle, et en fait c'était peut-être même la complexité de ce personnage et d'ailleurs même qui s'insère tellement bien dans l'absurdité qu'en fait ça en devient comique, et la narratrice ne peut qu'être moqueuse vis-à-vis de ça. Et j'ai l'impression effectivement que même dans Taormine, ce narrateur, ce personnage principal dans la voiture en tout cas, est proprement aussi dans une forme il y a une forme d'incompréhension en fait de ce comportement, et c'est là où en fait on comprend tout son comique, c'est-à-dire qu'il avance comme ça et on ne sait pas où est-ce qu'il va continuer. On se dit mais il va continuer à rouler comme ça encore longtemps, en fait.
Un comique c'est... de situation aussi,
oui, hein, tout à fait. Oui, mais de situation au moment où le fast-food émerge, enfin survient dans la narration, ça donne une puissance évocatrice. Et puis aussi, en retour, ça éclaire d'une certaine façon la vie familiale. Et donc, il y a ici, avec ce personnage aussi, quelque chose d'une évolution éclairante des choses. Et si je pense à moi du côté de la culpabilité, comme on le dit, de ce personnage qui s'appelle Melville, en définitive, moi, une fois que est découvert le fait, est mis en avant le fait que, a priori, cet accident, c'est lui qui en est responsable. Il vient de découvrir cette situation. Moi, je suis en tant qu'auteur qui fait avancer quelqu'un. Je me dis, mais oui, mais je vais pas en rester quoi maintenant. Je suis au tiers du travail d'écriture, et puis tout ce que tu as trouvé, c'est de faire en sorte qu'il se trouve coupable et puis que les choses ne vont plus. Et donc, ça veut déjà dire que le roman pourrait être pratiquement terminé. Et donc, ce que j'ai ressenti là, dans les deux, je le dis, c'est le fait particulier que moi, à ce moment-là, je prends position pour le personnage que je trouve en danger et que je vais tenter de défendre. C'est-à-dire que je me dis, on est dans un roman, après tout, j'ai tous les droits, la morale n'existe pas, et moi aussi, je peux avancer comme j'ai l'intention d'avancer. Et je voudrais que leurs vacances puissent se continuer, c'est-à-dire à défaut, s'ils rencontrent des ennuis, cela peut éventuellement clore le roman, mais en attendant, je ne l'abandonne pas. Et le fait de poursuivre dans une narration contradictoire, parce que ce type-là, il est capable de développer l'argumentaire de celui qui de la lâcheté, c'est-à-dire qui discute avec Louisa, avec sa femme, lui toujours cette histoire, moi Louisa elle reste importante, on est ici pour revivre notre vie de couple et personne ne me l'ôtera, y compris si je peux me permettre là de dire un enfant de migrant, d'accord, voilà. Et puis deuxièmement, j'ai quand même payé une semaine, alors voilà une série d'arguments dans l'argumentaire qui peut définir un être humain, quoi, ou un homme comme on les connaît. Enfin, comme on les connaît, comme on les rencontre, ou comment ils peuvent nous être suggérés, quoi.
C'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans la construction, c'est justement cette péripétie qui se trouve finalement au début et ensuite qu'est-ce qui va se passer encore pendant tout ce
moment. Parce que c'est quand même le vide, oui.
Ça poursuit, en fait, et on attendrait presque ce moment-là comme une sorte de fin. L'accident arrive et plus rien. Mais en fait, non, je trouve que c'est très intéressant, justement, de commencer par cette péripétie et ensuite de voir comment, en fait, les choses vont travailler, en fait, vraiment, et avec cette culpabilité-là, et en même temps, effectivement, comme un fort déni, puisqu'on est sur un personnage qui, au départ, en tout cas, ne veut pas l'entendre. C'est-à-dire que Louisa, justement, lui montre l'article et il ne le voit pas. Il le laisse à l'arrière de sa voiture, mais il ne le voit toujours pas. Et c'est très drôle, comme en fait, tout le monde, à un moment, j'ai l'impression, voit le fait et que ce personnage principal, lui, ne le voit pas. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, en tout cas, de construire comme ça aussi. Et c'est affaire de construction, d'écriture aussi, à un moment. Oui. De choisir, en fait, de faire ces choix-là et de placer des scènes à des endroits un peu différents.
Oui, la seule solution, peut-être presque suicidaire, je ne sais pas, c'est de continuer la description de la situation. Et lui peut développer sa femme lui disant, elle peut avoir, elle, par exemple, Louisa, c'est ce qui m'intéresse dans le personnage qui surgit progressivement. Louisa, elle est susceptible de rachat, c'est-à-dire qu'elle ressent le fait qu'elle... Peut-être, est-ce que ce serait pas une mauvaise idée? Et ça lui ôterait un poids sur le cœur, apparemment, si on allait se dénoncer à la police. Et alors, lui, c'est un scandale, évidemment. Et la question, elle est qu'il va poser toute une série d'éléments déclarant le fait, allant jusqu'à pouvoir dire que cet enfant, en définitive, et peut-être qu'ils n'ont rien, ça n'a rien à voir avec eux. Il y a d'autres voitures qui sont passées. Il n'y avait personne à ce moment-là. Il faisait nuit, il n'y avait pas, il n'y a pas eu de bruit particulier, on n'a rencontré personne. Voilà, donc je crois qu'avec cet ensemble d'arguments qui sont pondérés par le fait qu'il tient à reconstruire sa vie, cet ensemble d'arguments va me permettre de poursuivre en sa compagnie le récit. Ce qui ne veut pas dire... Je pense qu'il y a un rapport aussi, ce qui ne veut surtout pas dire qu'il ait raison ou qu'il ait tort. La question n'est pas là, et ce n'est pas, moi, la réponse que je pourrais donner. Ce qui fait que, voilà.
Pour peut-être conclure cet échange très délicat à construire entre deux œuvres, une très aboutie, une naissante, je voudrais sortir un tout petit peu de Taormine et parler d'un livre que j'ai réédité d'Yves Ravet qui s'appelle Le Drap dans la collection Double, la collection Poche des éditions de Minuit. Ce livre est consacré à la figure de son père, aux derniers jours de son père, qui était un ouvrier aussi, serrurier, dont il fait le portrait, un portrait extrêmement... émouvant, et je voudrais donc ajouter au fond à cette gamme de questions, de sujets, le réel, la formelle, la construction, tout ce qu'on a abordé pour essayer de voir comment fonctionnait chacun de ces deux livres. Voilà, je voudrais dire que dans le livre de Claire aussi, il y a une immense émotion qui surgit du portrait, de ce moment où elle se livre un portrait du père de la narratrice, Jérôme. Voilà comment c'est évidemment la littérature. On pense à beaucoup, beaucoup d'exemples, jusqu'à la lettre au père virulente de Kafka. Cette fois, c'est un regard, le regard qui est posé de deux narrateurs très discrets, très, très, très attentifs. Qu'est-ce que c'est de manipuler un sujet aussi sensible, Yves, que de parler de son père dans un livre bref, dans un livre dont la conclusion, là, je crois qu'on peut la livrer. Le père, ça s'appelle Le Drap, le père ne se relèvera pas à la dernière page, il ne se relève pas à la première, il ne se relève plus du tout, il n'est plus là à la fin. Comment on regarde son père et comment on arrive à mettre sur la page les émotions, le souvenir, ce qui vous assaille sans trahir, tout en étant toujours fils ou fille?
Ben, je pourrais répondre par un petit détour à ma découverte de Ansal, c'est-à-dire particulièrement la découverte du du portrait du père, quoi, qui est dressé comme ça, et surtout la façon dont on s'adresse au père pour lui parler, c'est-à-dire un discours qui est fondu dans le contexte et qui fait surgir une personnalité complètement, non pas hors du commun, mais quand même perçue au départ dans le cadre d'un souvenir, quoi, par un enfant. Et je me suis senti, si vous voulez, bercé. Ce que je veux dire là, c'est comment on peut naviguer d'un livre à l'autre, et comment un livre peut être l'ouverture d'un lecteur à l'autre. Ici, j'avais le sentiment, moi, de baigner dans quelque chose que je connaissais, quoi, des vacances, enfin des départs en vacances parentales avec deux, trois enfants à l'arrière de la voiture. Parce que finalement, quand on parlait du réel et de la concordance avec le réel, comme on a dit, je trouve que c'est une excellente démonstration dans l'écriture. Là, ça c'est bien évident. Et puis évidemment, puisque c'était l'évocation du père, moi je pouvais pas faire autrement que songer à ce livre donc que vous rappelez, qui est publié en 2003 et qui a été tiré en poche là, ce dont je vous serai éternellement reconnaissant, parce que la couverture poche comporte tout simplement, c'est ça le réel, la photographie de mon père en train de faire de la soudure au chalumeau, et quand il a une quarantaine d'années, au sortir de la deuxième de ses années de prisonnier en Allemagne ou en Autriche, et c'était vraiment très fort. Et puis il y a aussi, quand je dis que j'irai à peine plus loin sur le terme que le roman trouve et rencontre le réel, je dis aussi qu'il le percute. Et il le percute parce que tout le monde ne parle pas de manière raisonnée et de manière aussi peu dans le règlement de compte social des fast-food. Les fast-food, en définitive, quand on s'en rend compte, ils inondent la vie étudiante, adolescente, etc. C'est axé vraiment d'une manière très précise sur des rapports économiques tels qu'on les connaît. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais voir surgir l'image du McDo comme ça, alors que je dis McDo, mais on va l'appeler snack bar, on va l'appeler
le fast-food,
voilà, c'est ça. Et je dois dire qu'à titre personnel et intimement, on fait partie de générations qui ont tous ou toutes, à un moment donné, une parentèle avec quelqu'un qui fait un passage au McDo dans sa vie. Parce que pour besoin de gagner un peu d'argent, comme ça a été dit, aussi comme souci d'intégration sociale à une période donnée. Et moi, l'ayant aussi vécu sur un plan personnel, par rapport dans ma vie familiale, j'étais touché. Mais ça veut dire qu'un livre, il peut des fois toucher directement le lecteur sur des choses directes et concrètes, et non pas dans le lancement d'un grand débat d'idées sur ce qu'est la bouffe rapide par les temps qui courent. On ne confond pas roman et document, quoi. Et c'est ce borderline qui a permis que je sois touché. Sinon, j'aurais pas été touché.
Et c'est très juste, et c'est aussi la création en fait d'images, c'est-à-dire d'images presque communes d'enfance. Moi, je sais que sur justement, vous parliez du rapport au père comme ça et de la figure du
père. Votre père.
Je crois que c'était. En tout cas, j'ai l'impression que pendant l'écriture, il y a eu ce moment où il a fallu presque recréer le regard de l'enfant sur le père, ce qui est pas toujours très simple, parce que donc c'est forcément quelque chose qui tombe en fait. On n'aura pas vraiment entièrement ce regard qu'on avait certainement enfant, mais par contre ce travail de recréation justement m'a vraiment passionné, parce que il a fallu en fait, en plus au départ, comme je le disais, j'étais vraiment concentrée sur l'usine, et j'ai l'impression qu'en fait j'étais plus concentrée d'ailleurs sur l'usine et sur son ouvrier, oui. C'était presque ça en fait. C'était avant même le père, c'était l'ouvrier, et ensuite il y a eu le père après l'ouvrier. Il y a eu un passage comme ça de la figure du travailleur dans ce qu'elle peut avoir de, oui, un peu même mythologique, en fait, ces images d'archives.
Et puis
sur le monde ouvrier. Et ensuite, il y a eu un déplacement comme ça de cette figure d'ouvrier au père vraiment. En fait, il y a un moment où j'ai commencé donc à recréer ce regard-là. Et en fait, qui est finalement assez fragmenté, c'est-à-dire que parfois, ce qu'on garde du père, ça peut être un regard particulier. Moi, je pense que c'est quelque chose dont je me souviens récemment. C'était une photographie comme ça d'Alix Clérou-Roubaud avec elle photographie en fait sa position dans la voiture, justement, et elle photographie le regard de son père dans le rétroviseur. Je crois que c'est l'image qui m'a le plus frappée, en fait. C'est-à-dire que c'est la chose qu'elle voyait le plus de son père, c'était ses lunettes comme ça dans le rétroviseur. Et je trouve que c'est un geste extrêmement beau, justement, sur ces fragments de personnes, enfin, ces fragments de perception sensorielle qui composent une figure. C'est-à-dire qu'on n'a pas une figure en entier, finalement, mais on va avoir ce regard. Je sais que, par exemple, pour les enfants, ça va être les gros yeux, les mains qui sont énormes et qui, comme ça, qui se posent sur la table, des choses comme ça aussi, le moment où on débarrasse en noir, les habits, la façon dont aussi les odeurs, aussi le père qui enlève sa veste en cuir en arrivant avec cette odeur de gel comme ça dans les cheveux. Oui. Ça, c'est peut-être des choses en fait justement qui tiennent à l'enfance et qui peuvent être partagées aussi parce que justement c'est peut-être même le mode ou du moins la médiation, en tout cas le regard vers quelque chose qui peut être le plus commun, peut-être encore plus que par exemple l'aspect singulier de telle et telle expérience d'enfance. Je crois que c'est peut-être le regard et ce regard vraiment enfant qui peut être commun et je sais pas, ouais, c'était quelque chose dans l'écriture, moi, qui m'avait intéressé justement. Et d'ailleurs, même par rapport à ces enregistrements que je faisais avec mon père en amont, il y avait des moments où lui revenait sur des souvenirs d'enfance qui me touchaient beaucoup, justement parce qu'il avait lui-même cette vision un peu fragmentée. Il me parlait donc des couloirs de la maternelle qui étaient peints en orange, il me disait, parce qu'il a grandi dans les années 70, donc il y avait toutes ces couleurs un petit peu un flashy qui, lui, l'avait beaucoup marqué. Et puis ces préaux avec ses feuilles mortes collées au sol, au bitume. Enfin, c'était en fait à peu près la même chose, c'est-à-dire en fait des impressions sensibles, en fait, véritablement. Et je crois que c'est peut-être ça qui m'a plus intéressée dans le portrait. C'était presque ces impressions-là sensibles. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on a, enfin, notamment aussi sur le bricolage, l'activité du père comme celle du bricolage et de la récupération. Et voilà, il y a toujours quelque chose à visser, toujours quelque chose à retaper littéralement, à refaire, quoi. Et cette réparation-là, je trouve que c'est un des motifs importants, finalement, du roman, à côté donc du travail et de ces deux fils narratifs. Il y a à côté, peut-être, on pourrait même dire deux motifs, c'est-à-dire le désordre et la réparation.
Ça veut dire que, si je peux me permettre comme ça, c'est un souvenir. Mais la première fois que j'ai rencontré Claire Baglin, je me disais... Enfin, c'est stupide, c'est pas parce que deux personnes font de la littérature qu'ils doivent parler de littérature, déjà. Donc, les choses sont venues très vite, et puis, en définitive, on a parlé, ben, justement, de fast-food. Voilà. Mais ça, dans la mesure où je pense, enfin, j'avais le sentiment, après, que la conversation était allée très loin. C'est-à-dire qu'il y a l'objet du... l'objet de la discussion, mais il y a la thématique qui est supportée par le fait que ce fast-food surgit d'un roman, qui est une observation raisonnée du réel, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti, et je crois que ce qu'il y a à ce moment-là dans la littérature, sans employer des grands mots non plus, mais quelque chose d'existentiel, voilà, ouais, ce que je ressens. Et pour avoir moi l'expérience, encore une seconde, l'expérience d'une personne qui m'est proche, qui a fait la même démarche, puisque souvent dans les années d'études, comme ça, on peut devenir brillant, ça n'empêche pas d'avoir fait un stage par le fast-food, qui lui est peut-être éclairant, je sais pas. Mais au moment où cette personne dont je parle, faisant ses études, passait à un fast-food, et ce que j'avais vécu, c'est que si, par exemple, je disais, et je ne crois pas sortir du roman, et je ne crois pas sortir de la littérature, si, par exemple, moi, je disais, votre fils, par exemple, je dis, oui, il travaille là, en ce moment, il est dans un fast-food. Et il y avait deux types de réactions, si vous voulez. La première réaction, c'était, comment il se fait exploiter il est payé combien, etc. Et puis il y avait une autre réaction qui était de dire ah là là, quelle chance il a de pouvoir organiser sa vie et de et d'avoir cette expérience. Donc il y a là, si vous voulez, pour en même temps qu'on critique un sujet, il faut pouvoir l'intégrer et l'accepter. C'est ça que j'ai ressenti. Voilà.
Ça revient sur les questions notamment voilà, de qu'est-ce qu'on fait exactement avec la matière du travail et sur la question de la dénonciation, c'était effectivement pas véritablement le propos, il y avait autre chose. Et puis en fait, finalement, encore une fois, le fast-food reste en fait un motif, mais toujours, et on l'a, et d'ailleurs, c'était peut-être oui, le début, mais c'est ce qui se déploie après qui est peut-être le plus sensible et qui, nous, en tout cas, nous a rapprochés sur ces thématiques-là aussi. Et puis finalement, sur le portrait, ensuite, sur la constitution d'un portrait. Oui.
Je vous remercie beaucoup pour ce moment d'échange. Le mot sensible, le mot existentiel qui sont venus dans les derniers, peut-être, caractériseraient aussi ce qui travaille ces livres, au fond. Donc, je vous invite à revenir au texte lui-même et y repuiser ce que votre propre sensibilité, votre propre rapport au monde projettera dessus. Merci beaucoup Claire Baglin, merci beaucoup Yves Ravel.
Merci.